Imaginons un instant un pays qui prend la décision vraiment consciente de saigner ses propres caisses à hauteur de 1,65 milliard de dirhams. Et ça, c'est pas par an, hein.
Non, c'est chaque mois. C'est juste faramineux.
Exactement, chaque mois. Cet argent est littéralement brûlé pour maintenir artificiellement le prix d'une bonbonne de gaz ou d'un litre de carburant, en gros, pour que la population ne subisse pas l'inflation mondiale.
Bah, habituellement, quand un marché émergent fait ça, la finance internationale s'affole complètement.
Bah ouais, c'est clair. Les agences de notation sortent le carton rouge direct, les investisseurs fuient, on crie au dirigisme d'État intenable, quoi.
Ouais, le scénario classique.
Sauf que là, aujourd'hui, on va se pencher sur un pays qui fait exactement ça, et devinez quoi ? Wall Street l'applaudit. Les capitaux étrangers y affluent comme jamais auparavant.
C'est fou.
Et ce pays, bah, c'est le Maroc.
C'est un paradoxe qui défie presque les manuels d'économie classiques, en fait. D'un côté, on a une intervention étatique massive, presque chirurgicale pour geler les prix.
Mmh.
Et de l'autre, on a une orthodoxie financière internationale qui, au lieu de sanctionner ce comportement, qui est normalement perçu comme super risqué, bah, le récompense avec des investissements records.
Et c'est précisément ce grand écart qu'on va analyser dans notre exploration d'aujourd'hui. On a rassemblé une pile de données fascinantes, principalement tirées de l'édition d'avril 2026 du magazine EcoBusiness.
Ouais, une édition très riche d'ailleurs.
Totalement. Et l'objectif de cette plongée au cœur de ces sources, bah, c'est de comprendre l'ingénierie derrière ce funambulisme économique.
Faut bien appeler ça comme ça, oui.
Mais avant même de parler des milliards qui circulent à Wall Street ou à la bourse de Casablanca, je pense qu'il faut regarder à l'échelle micro.
C'est vrai, faut revenir à la base.
Faut regarder dans la cuisine des gens, parce que c'est là que cette stratégie prend vraiment ses racines.
Mais totalement. Tu sais, les grandes décisions macroéconomiques, elles flottent pas dans les airs. Elles dictent si une famille peut se permettre de chauffer son repas, ou si, bah, si un agriculteur peut payer le transport de sa marchandise.
C'est ça.
Et le contexte mondial actuel, franchement, il est impitoyable.
D'accord. Décortiquons tout ça. Les documents mettent en lumière ce qu'on appelle le bouclier social.
Le fameux bouclier, ouais.
Prenons l'exemple le plus concret, genre la bonbonne de gaz butane de 12 kilos. C'est la source d'énergie de base dans un nombre incalculable de foyers.
Mmh.
Actuellement, avec les tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui s'éternisent, le coût réel de cette bonbonne sur le marché mondial, il a grimpé à 78 dirhams.
78 dirhams, c'est énorme pour un budget modeste.
C'est énorme. Pourtant, au Maroc, elle est toujours vendue à 30 dirhams.
Ouais.
Et la différence de 48 dirhams, bah, elle n'a pas disparu par magie. Hein. C'est l'État qui signe le chèque. Et il ne s'arrête pas là. Hein.
Non, il y a l'électricité aussi.
Exactement. Les tarifs de l'électricité sont gelés. Et puis, les chauffeurs de taxi, les bus, le transport rural, ils reçoivent une aide directe de 3 dirhams par litre de carburant.
Ce qui chiffre très, très vite.
Mais grave, quand on met tout ça bout à bout, la facture publique est de 1,65 milliard de dirhams par mois.
Un truc de fou.
Un parapluie, ça protège sur le coup, mais ça renforce pas les fondations de la maison, on est d'accord.
Ce qui est fascinant ici, c'est justement la dualité de cette stratégie. L'article d'EcoBusiness détaille très bien la mécanique, en fait.
Ouais.
Sur le plan purement comptable, c'est une hémorragie. Subventionner à ce niveau, c'est masquer le signal prix. Normalement, quand l'énergie coûte cher, les gens en consomment moins et l'économie s'adapte, même si c'est hyper douloureux, quoi.
Bien sûr.
Mais en bloquant les prix, on crée une distorsion. Et on repousse un peu le problème à plus tard, tout en creusant une dépendance budgétaire féroce.
Donc théoriquement, c'est une mauvaise idée.
Bah, sur le papier d'un économiste orthodoxe, oui, carrément.
Ouais.
Mais dans la réalité d'un État, la logique est tout autre. Laisser les prix s'envoler à 78 dirhams la bonbonne, c'est déclencher une réaction en chaîne dévastatrice.
Ah bah oui, tout augmente.
Voilà, le coût du pain augmente, le coût des transports explose, le pouvoir d'achat s'effondre. Et historiquement, l'inflation galopante sur les produits de première nécessité, bah, c'est le chemin le plus court vers la colère sociale et l'instabilité politique.
C'est clair.
Donc l'État, il paye pas seulement pour du gaz, il paye pour maintenir la cohésion nationale.
Sauf qu'on ne peut pas financer un bouclier de 1,65 milliard par mois uniquement avec de bonnes intentions. Il faut que l'économie derrière génère de l'argent.
Exactement.
Et en lisant les données du Haut Commissariat au Plan, le fameux HCP, pour le quatrième trimestre 2025, je suis tombée sur un constat qui m'a un peu fait tiquer.
Ah oui, sur la croissance économique.
Ouais. La croissance du PIB est à 4,1%. C'est solide, hein, même si c'est une infime baisse par rapport aux 4,2% de 2024.
Oui, ça reste très bon.
Mais quand on regarde le détail, on voit que l'industrie ralentit un tout petit peu, passant de 4,8% à 4%.
Mmh.
Et c'est l'agriculture qui fait un bond énorme de 4,7%. Et le moteur principal de cette croissance globale, c'est la demande intérieure, la consommation des ménages, quoi.
C'est un point crucial, ça.
Bah, du coup, je me demande, est-ce qu'on n'est pas face à une illusion de croissance ? Si la consommation tient bon, c'est pas uniquement parce que l'État injecte ces fameux milliards de subventions.
C'est la grande question.
En gros, l'argent de l'État tourne en rond pour créer une fausse impression de dynamisme, non ?
Alors, si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, on comprend que cette observation est vraiment au cœur du débat.
Ouais.
Oui. Cette résilience est fortement sous perfusion, c'est indéniable. Mais dire que c'est une pure illusion, ce serait incomplet.
Comment ça ?
Voyons comment la mécanique opère concrètement. En absorbant le choc énergétique, le gouvernement libère le reste du budget des ménages.
Ah, d'accord.
Une famille qui ne se ruine pas en gaz ou en ticket de bus, bah elle va continuer d'acheter des vêtements, de consommer des services, de faire vivre les petits commerces. Et l'impact du rebond agricole de 4,7%, il est massif dans ce contexte.
Parce qu'une bonne récolte, c'est de l'argent qui va directement dans les poches du monde rural.
Exactement. Et l'agriculture, ça emploie une vaste proportion de la population marocaine. Quand ce secteur croît de 4,7%, c'est pas juste un chiffre abstrait sur un tableau Excel, hein.
Ouais, c'est des vrais gens.
C'est ça. C'est des agriculteurs qui achètent du matériel, qui construisent, qui consomment. Ça irrigue toute l'économie nationale.
C'est un effet boule de neige, en fait.
Totalement. Et à côté de ça, faut surtout pas ignorer les vrais moteurs de création de valeur à l'international. Le secteur de l'automobile, par exemple.
Ah oui, l'article en parle.
Il génère à lui seul 38% des créations d'emplois industriels. Le tourisme suit derrière avec 17%. Donc l'économie tourne pas uniquement sur l'argent des subventions, mais disons que ces subventions empêchent la machine de s'enrayer brutalement.
Je comprends. Le bouclier, en gros, il empêche la demande de s'effondrer le temps que l'agriculture ou l'automobile fassent leur travail.
C'est exactement l'idée.
Mais bon, ça résout pas le problème de trésorerie immédiat. Pour payer ce parapluie mensuel qui est colossal, l'État a besoin de liquidités, et très vite. Il peut pas juste s'endetter à l'infini.
Ah non, ça c'est sûr.
Et c'est là que l'analyse des résultats de l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, devient indispensable. C'est le champion national par excellence, et leurs chiffres de 2025 sont stupéfiants.
L'OCP, c'est effectivement la clé de voûte financière de tout ce système. C'est l'une des plus grandes entreprises de fertilisants au monde et il faut dire que la géopolitique joue actuellement en sa faveur.
Complètement. Les sources montrent que leur chiffre d'affaires 2025 a bondi de 17,5% pour atteindre près de 114 milliards de dirhams.
C'est massif.
Et c'est pas dû au hasard, hein. L'article souligne un changement de paradigme mondial. La Chine a imposé des restrictions super strictes sur ses propres exportations d'engrais.
Ouais, ils ont fermé les vannes.
Du coup, des géants agricoles comme l'Inde se sont retrouvés un peu le bec dans l'eau et se sont tournés massivement vers le Maroc. Les ventes de superphosphate triple, le fameux TSP, dont on entend si souvent parler dans l'agro-industrie, elles ont explosé de 48%.
48%, c'est un boom incroyable.
On pourrait s'arrêter là et se dire, bon, tout va bien, dans le meilleur des mondes, sauf que le bénéfice net de l'OCP, lui, il a chuté de 13%.
Et c'est là qu'on touche au cœur du problème.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? J'ai lu plus loin et la cause est super claire. L'État a purement et simplement triplé l'impôt sur les résultats de l'entreprise.
Un triplement, oui.
En gros, l'État actionnaire a vu le chiffre d'affaires record et s'est servi dans la casse pour payer le gaz de la population. Mais soyons critiques une seconde. Ponctionner son champion industriel pour payer des factures courantes, c'est comme vendre les meubles pour payer le loyer, non ?
C'est une bonne analogie. Hein.
Est-ce que c'est pas sacrifier l'avenir de l'entreprise au profit de l'urgence d'aujourd'hui ?
C'est l'inquiétude légitime de tout analyste financier en lisant ce bilan. Siphonner les profits pour financer le social, ça peut clairement assécher la capacité d'innovation d'une entreprise.
Surtout une entreprise de cette taille.
Absolument. Mais c'est là qu'il faut regarder au-delà du simple bénéfice net. Il y a un autre indicateur beaucoup plus parlant sur la santé réelle de la machine, c'est l'EBITDA.
L'EBITDA, ouais.
Pour faire simple pour notre public, l'EBITDA, c'est l'argent brut généré par les activités de l'entreprise, avant qu'on les déduise les impôts, les intérêts, tout le tralala comptable. Et l'EBITDA de l'OCP s'élève à 43,19 milliards de dirhams.
Ah ouais, quand même. Donc, fondamentalement, le cœur de l'entreprise bat très très fort.
Exactement. C'est un monstre de rentabilité opérationnelle. Ce niveau de cash flow brut, il montre que malgré la taxe étatique exceptionnelle, l'OCP n'est absolument pas exsangue. Et d'ailleurs, les preuves sont dans leurs dépenses d'investissement. Même avec cet impôt triplé, ils ont injecté 34 milliards de dirhams dans de nouvelles infrastructures en 2025.
Oui, les projets qui sont mentionnés dans les rapports sont assez colossaux. Ils se contentent pas d'extraire de la roche, quoi.
Non, ils vont bien plus loin.
Pic local et de la mise en service de 3 centrales solaires gigantesques avec une capacité de 202 mégawatts crête.
C'est énorme.
Et pour donner une idée à ceux qui nous écoutent, 202 mégawatts crête, c'est pas juste quelques panneaux sur le toit du garage. Hein. C'est suffisant pour alimenter des complexes industriels entiers en énergie propre. En fait, ils construisent leur propre souveraineté énergétique.
C'est la nuance fondamentale ici. Le gouvernement taxe les bénéfices exceptionnels d'aujourd'hui, des bénéfices créés par une conjoncture géopolitique favorable, notamment l'absence de la Chine sur le marché, pour éteindre l'incendie social interne.
D'accord.
Mais il le fait avec un calibrage assez précis pour pas entraver le plan de transition verte de l'OCP. L'entreprise continue de préparer l'avenir.
Bon, on a vu que la plomberie interne fonctionne. On prend d'un côté pour boucher de l'autre, tout en maintenant les investissements. C'est habile.
Très habile.
Mais l'économie marocaine, c'est pas une île. Le monde extérieur a son mot à dire. Et généralement, comme on le disait au tout début, les institutions financières mondiales, comme le FMI ou les grandes agences de notation, elles détestent ce genre de dirigisme.
Ah ça, c'est leur bête noire.
Elles exigent de l'austérité, des coupes dans les budgets sociaux. On s'attendrait à ce qu'elles sanctionnent lourdement le Maroc pour ce funambulisme budgétaire.
Et pourtant, les signaux venant de l'extérieur sont pas seulement rassurants, ils sont littéralement spectaculaires. L'attractivité du pays semble complètement déconnectée des craintes qu'on pourrait avoir face à ces dépenses.
Oui, les chiffres donnent un peu le tournis. Les investissements directs étrangers, donc les capitaux venus d'ailleurs pour s'implanter au Maroc, ont atteint un record absolu de 56,1 milliards de dirhams.
Un record historique.
Le magazine attribue cette dynamique à l'adoption récente de la nouvelle charte de l'investissement. Mais ce qui me frappe le plus, c'est le comportement des agences de notation. Ces fameux arbitres impitoyables du capitalisme mondial.
Oui, elles ont été très clémentes.
Moody's vient carrément d'améliorer sa perspective sur le Maroc, de stable à positive pour sa note BA1. Ça veut dire que le pays est aux portes de ce qu'on appelle l'investment grade. Et de son côté, S&P maintient une note très rassurante de BBB- à 3.
Faut bien comprendre l'enjeu technique de cette fameuse catégorie investment grade. C'est pas juste une jolie médaille honorifique, hein.
Non, ça change la donne.
Totalement. Dans la finance mondiale, t'as d'énormes fonds de pension ou des fonds d'investissement institutionnels qui ont des règles super strictes. Ils ont tout simplement pas le droit d'acheter la dette d'un pays classé en dessous de ce seuil.
Ce qu'on appelle les obligations pourries, ou junk bonds.
Voilà. S'approcher de l'investment grade, c'est s'ouvrir l'accès à un océan de capitaux mondiaux, avec des taux d'intérêt beaucoup plus bas. Et ça réduit mécaniquement le coût de la dette du pays.
C'est un vrai cercle vertueux. Et pour couronner le tout, Casablanca Finance City a grimpé de 7 places pour intégrer le top 50 mondial des places financières.
Belle performance.
Il s'impose comme le hub absolu de la fintech en Afrique, dépassant largement des places fortes historiques comme Johannesburg ou l'île Maurice.
C'est impressionnant.
Ça devient vraiment intéressant. Comment expliquer cette bienveillance des marchés face à un État qui dépense sans compter pour geler les prix ?
C'est le cœur du mystère.
En préparant ça, ça m'a fait repenser à une histoire fascinante sur les débuts de la finance moderne. Avant de devenir l'archétype du banquier froid, impitoyable et calculateur, le jeune J.P. Morgan était plutôt romantique.
Ah bon ? C'est dur à imaginer.
Ouais, mais sa jeune épouse est décédée de la tuberculose quelques mois après leur mariage. Et face à ce chaos émotionnel absolu, face à cette impossibilité de contrôler le destin ou la maladie, il s'est métamorphosé.
D'accord.
Il a décidé que s'il ne pouvait pas contrôler la vie, il contrôlerait tout le reste. Les chemins de fer, l'acier, l'argent. Il a bâti un empire basé sur la réduction du risque et l'imposition de l'ordre.
Très intéressant.
J'ai toujours pensé que les marchés financiers d'aujourd'hui sont à l'image de ce JP Morgan post-tragédie. Ils sont froids, dénués de toute empathie sociale, ils ressentent rien. Tout ce qu'ils veulent, c'est contrôler le risque.
C'est le radien.
Et pourtant, ces mêmes marchés, froids et calculateurs, regardent la politique sociale marocaine et investissent massivement.
Cela soulève une question importante. Pourquoi des entités dont le seul but est le rendement approuveraient-elles une dépense sociale si massive, d'apparence complètement irrationnelle ?
C'est ça.
La réponse est peut-être la plus grande leçon de cette analyse, en fait. Pour ces marchés, cette subvention n'est pas de la charité, c'est une prime d'assurance.
Une prime d'assurance contre le chaos.
Exactement. Le capital déteste l'incertitude.
Plus que tout.
Que se passe-t-il quand fut l'applique l'austérité brutale que le FMI impose parfois à d'autres pays émergents ?
Ça casse.
Voilà. Les prix doublent du jour au lendemain. Les travailleurs se mettent en grève. Les rues s'enflamment. La chaîne d'approvisionnement est paralysée. Et soudainement, cette belle usine automobile dernier cri, financée par des capitaux étrangers, elle ne peut plus exporter une seule voiture.
C'est clair.
Les analyses de Moody's et de S&P savent très bien compter. y voient le Maroc dépenser 1,60 milliard par mois, mais ils savent aussi qu'une émeute sociale ou une instabilité chronique, ça détruirait infiniment plus de valeur.
C'est d'une logique implacable. Les agences de notation voient des réserves de change extrêmement confortables de 452,6 milliards de dirhams, ce qui couvre plus de 5 mois d'importation. Et elles se disent d'accord, ils payent cher pour maintenir la paix sociale, mais ils en ont les moyens et ça garantit que nos usines et nos investissements tourneront sans aucune interruption.
C'est le cœur du réacteur. L'orthodoxie financière classique exige souvent des coupes sociales au nom de l'équilibre des budgets. Mais les investisseurs d'aujourd'hui, face à un monde géopolitique hyper fracturé, ils privilégient la prévisibilité.
Ils veulent dormir tranquille, quoi.
Exactement. Le gouvernement achète cette prévisibilité. Et la nouvelle charte de l'investissement vient cimenter ça, en offrant des règles du jeu claires et durables aux entreprises étrangères.
Ouais.
Le message envoyé, en gros, c'est « L'État gère les tempêtes sociales à l'extérieur des murs de l'usine pour que l'usine puisse se concentrer sur sa production ».
C'est un modèle qui force l'admiration par son pragmatisme, mais ça reste un jeu d'équilibriste extrêmement tendu. Si on prend un peu de recul pour faire la synthèse de cette exploration basée sur les données d'éco-business, on voit une nation qui a construit une machine complexe à deux moteurs. D'un côté, il y a cette perfusion budgétaire massive, une nécessité absolue pour amortir le choc de l'inflation mondiale et garder la société unie.
C'est le bouclier.
Voilà. Et de l'autre, il y a la mobilisation d'un arsenal industriel redoutable, incarné par l'OCP et l'industrie automobile, qui génère les devises nécessaires pour rassurer le monde entier et attirer l'argent frais.
C'est un système de vases communicants très performant dans le contexte actuel, où la souveraineté économique n'est plus seulement une question de rentabilité, mais une vraie question de résilience face aux chocs exogènes.
Tout à fait.
Les subventions achètent le temps nécessaire pour que les réformes de fond, comme les énergies renouvelables et les nouvelles infrastructures, prennent le relais.
En gros, l'État tient un énorme parapluie au-dessus de la société, tout en s'assurant de construire un toit en béton armé en dessous pour le futur.
C'est une belle image.
Mais au terme de cette analyse, il y a une réflexion un peu plus sombre, ou du moins provocatrice, qui s'impose. Tout ce modèle repose sur une prémisse très spécifique, l'idée qu'on amortit une crise passagère.
Oui, l'idée que ça va s'arranger.
Exactement. On gèle les prix de l'énergie en attendant que le monde se calme, que les conflits se résorbent et que les prix de l'énergie redescendent. C'est une logique d'urgence d'achat de temps. Mais que se passerait-il si on avait mal compris la nature de l'époque dans laquelle on entre ?
C'est-à-dire ?
Le scénario d'une crise systémique globale.
Ouais.
Et si cette fragmentation géopolitique, ces tensions sur l'énergie, c'était pas un simple orage à traverser ? Et si c'était devenu le climat permanent de notre siècle ?
C'est la grande angoisse, ça.
La question redoutable que ces documents soulèvent un peu en filigrane, c'est celle de la pérennité. Un pays, aussi agile soit-il, peut-il ériger des mesures d'urgence budgétaire en stratégie à perpétuité ?
Bonne question.
Si le monde revient jamais à la normale, combien de temps et combien de dizaines de milliards ce parapluie pourra-t-il absorber avant que le vent ne finisse par le retourner, emportant avec lui les équilibres si minutieusement construits ?
C'est le mur de la réalité face auquel la stratégie actuelle devra un jour faire ses preuves. La subvention, c'est un bouclier, pas une ressource infinie.
C'est clair.
La seule véritable porte de sortie, ça sera la rapidité avec laquelle les grands projets de souveraineté énergétique et hydrique pourront débrancher le pays de sa dépendance aux aléas mondiaux. C'est une véritable course contre la montre.
Une course qui redéfinit totalement ce que signifie gouverner en temps d'incertitude. En tout cas, ces documents nous ont permis de voir bien au-delà des simples lignes de crédit ou des bilans comptables.
Absolument.
Ils révèlent une nation qui fait des choix humains, complexes et coûteux sous le regard froid mais approbateur de la finance mondiale.
C'est tout le paradoxe.
Et nous invitons quiconque nous écoute à garder ce prisme en tête. La prochaine fois que les prix fluctuent ou qu'une grande agence publie une note, rappelez-vous qu'il s'agit jamais seulement de mathématiques. Il s'agit du coût réel de la stabilité.
Très bien résumé.
N'hésitez pas à creuser ces dynamiques par vous-même, à remettre en question l'évidence et à chercher les véritables leviers qui font tourner le monde. Merci d'avoir partagé cette plongée au cœur de cette mécanique complexe avec nous et continuez de cultiver votre curiosité.